Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
L'autre jour, j'ai reçu un livre qui s'appelle House and Philosophy. Et dedans, j'ai lu quelques articles qui sont dedans. Et dedans, un des auteurs souligne quelque chose qui est très drôle, c'est qu'à un moment donné, dans un épisode de House, donc House, c'est un médecin, c'est Sherlock Holmes médecin qui enquête sur des cas médicaux souvent complètement incompréhensibles. Et d'ailleurs, il ne traite qu'un seul patient en général par épisode. Et pendant toute la première saison de House, House n'arrête pas de dire à ses jeunes collègues « Vous devriez regarder plus la télé ». D'ailleurs, on le voit dans plusieurs épisodes, regarder un soap qui n'existe pas, qui n'existe que dans la série, qui est un peu General Hospital, enfin bon, et dans lequel il y a des médecins, et il n'arrête pas effectivement de regarder ça sur un petit téléviseur tout petit. Alors tantôt, il est dans la salle de consultation, comme ça, il est dans la salle de consultation, mais il ne reçoit aucun patient, mais on ne l'embête pas. Ou bien des fois, il regarde ça en mangeant un sandwich près du lit d'un patient qui est dans le coma, mais qui ne peut pas évidemment regarder la télé, donc il peut regarder son soupe. Et je pense aussi sincèrement que les médecins devraient regarder beaucoup plus la télé. Et ils devraient en particulier regarder beaucoup plus les séries télévisées médicales, parce qu'en général, les médecins, quand ils regardent la télé, ils regardent des choses un peu arrêt essai. En France, c'est Arte. Ici, je pense que c'est PBS ou des émissions de la télé canadienne qui sont des émissions éducatives ou des documentaires sur la situation de la médecine au Canada. Mais ils ne regardent pas les fictions. Or, à l'heure actuelle, en Amérique du Nord, il y a 4 ou 5 fictions médicales, soit comédie, soit fiction dramatique, qui parlent de médecine et qui en parlent de façon tout à fait intéressante. La première chose que je voudrais dire, qui me paraît intéressant, c'est que la plupart du temps, quand je dis que les fictions télévisées pourraient avoir un intérêt pédagogique, en particulier pour enseigner l'éthique, mais pas seulement, on dit « Ah bon, les séries télé, ça peut avoir un intérêt pédagogique ». Alors si, pour régler ce problème assez rapidement, mais enfin, en tout cas, on peut en discuter, si la littérature a une valeur pédagogique, si le théâtre a une valeur pédagogique, si le cinéma a une valeur pédagogique, si maintenant tout le monde est d'accord pour dire que la bande dessinée a une valeur pédagogique, on ne voit pas au nom de quoi on pourrait dire que les fictions télévisées, qui sont une forme de narration, de fiction narrative très particulière, liée à un médium très particulier, mais tout de même des fictions narratives qui sont fabriquées avec les mêmes codes, avec les mêmes obligations, avec les mêmes, le même soin que toutes ces autres formes de fiction narrative, on ne voit pas pourquoi elle n'en aurait pas.
Je crois que la télé est le plus souvent critiquée par des gens qui ne l'écoutent pas.
Qui ne la regardent pas.
Qui ne la regardent pas. Il y a probablement un préjugé élitiste. La télé est sans doute le plus démocratique de nos médias. S'acheter un téléviseur à peu près correct, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Le câble de base maintenant qu'il faut avoir pour écouter des émissions, c'est pas la fin du monde comme coup. On n'a pas à se déplacer. On n'a pas à se déplacer pour y aller. On peut écouter la télé en pyjama ou en t-shirt, alors que pour aller au théâtre ou pour aller à l'opéra, on se sent un peu mal quand on n'est pas bien fripé, on a l'impression de frayer avec un monde qui est peut-être plus standing que le nôtre.
C'est fait plus club privé.
Et donc, je suis étonné, en tant que philosophe, mon environnement social est fait de beaucoup de gens qui méprisent la télévision, qui n'en ont pas et qui parfois, et alors là, quasi crime contre l'humanité, interdisent à leurs enfants de la regarder. parce qu'ils ont l'impression que leur enfant serait pollué à tout jamais en regardant la télévision. Moi, mes parents étaient extrêmement tolérants, très ouverts, il n'y avait pas de règles, je pouvais regarder la télé autant que je le voulais. J'ai continué à faire la même chose avec mes enfants. Il y a une autorégulation qui se met en place de toute façon, parce qu'effectivement, on ne peut pas regarder la télé 12 heures par jour. Il y a une autorégulation qui se met en place de manière tout à fait naturelle. Et il y a eu un moment où j'ai arrêté de me culpabiliser. Ça a été pour moi un grand moment, lorsque je me suis rendu compte que le fait que je regardais de la télé, malgré le fait que j'étais prof d'université ou doctorant en philosophie, ne faisait pas de moi quelqu'un de honteux, quelqu'un qui avait à cacher un vice dont il ne fallait pas parler, mais quelqu'un qui avait accès à un mode d'expression culturelle tout à fait viable. Et je me suis mis moi-même à me dire parfois la chose suivante: j'aimerais bien avoir plus de temps que je n'en ai pour regarder la télé, parce qu'il y a des choses très très bien que je manque. Hein. Mm-hmm. Lorsque je dis ça à mes collègues qui ont l'habitude de le dire à propos des livres qu'ils voudraient pouvoir lire ou des films qu'ils n'ont pas le temps de voir, je me dis parfois qu'il y a des choses absolument géniales qui ont été faites à la télé que jamais je ne verrai faute de temps, et qu'il aurait été bon que je voie. Mais je crois qu'effectivement le paradigme de ce dont on parle, c'est la série américaine dramatique avec des personnages récurrents qu'on apprend à connaître, avec lesquels on vit jusqu'à une certaine mesure. Peut-être, je ne sais pas où tu mettrais le point de départ de cette série dramatique de qualité. Il y a eu les Streets of San Francisco à un moment donné, dont on a dit que c'était...
Non, mais ça a commencé tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la télé américaine, qui est la plus ancienne, c'est une télé qui commence par adapter des pièces de théâtre, et qui sont des pièces de théâtre qui commencent d'ailleurs dans l'Est, hein, qui commencent à New York, et qui commence par adapter des pièces de théâtre, qui sont des pièces de théâtre tout à fait intéressantes, avec des auteurs de théâtre tout à fait intéressants. Un exemple assez connu, c'est que l'auteur de 12 Angry Men, Reginald Rose, est à l'origine d'une série d'avocats qui s'appelle The Defenders, qui date des années 50, et qui est la première série télévisée qui aborde le problème de l'avortement en tant que choix d'une femme. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, le personnage qui est poursuivi, The Defenders sont deux avocats, le père et le fils, et le personnage qui est poursuivi est un médecin qui pratique des avortements pour aider les femmes à avorter, pour qu'elles le fassent dans de bonnes conditions, pas pour qu'elles meurent. On voit que dans les histoires de la télévision, The Defenders est considéré comme une des séries de qualité fondatrice, dans le sens où justement ça a abordé les problèmes de société, ça a abordé les problèmes d'éthique, ça a abordé les problèmes de loi, bien, comment dire, du même niveau que le cinéma. Alors il faut rappeler aussi que la télévision américaine, elle a commencé avec des gens qui faisaient du cinéma. C'est-à-dire que quand la télévision a commencé sa production, les chaînes de cinéma, les studios de cinéma se disaient: mais comment on va survivre à la télévision? Et ils se sont dit: bah oui, mais tout simplement, les cases horaires, il faut qu'ils les remplissent. Or, nous, on a l'infrastructure, on a les acteurs, on a les metteurs en scène, on a les décors, on a les caméramans. C'est nous qui allons produire les programmes de la télévision. C'est pour ça qu'aux États-Unis, le cinéma et la télévision sont intimement liés, et l'ont toujours été. On dit Hollywood aussi bien pour parler des gens de télé que des gens de cinéma. Même si les productions sont différentes, même si les coûts et les modes de production sont différents pour des raisons qui sont des raisons économiques, stratégiques, tout ce que tu veux, ça reste les mêmes gens, les mêmes personnes au départ. Alfred Hitchcock a fait de la télévision, David Lynch a fait de la télévision. Bon. Donc,
il y a eu un moment par contre, et encore une fois, je ne suis pas suffisamment historien de la télé ni du cinéma pour savoir exactement quand ça s'est produit, peut-être au moment où il y a eu la révolte anti-grand studio des Spielberg, Coppola, Altman et autres.
Spielberg, il a commencé la télé.
Oui, mais il y a eu une période, et c'est la période où moi, mon éveil culturel s'est fait, où la télé était perçue comme étant là où allaient les acteurs qui ne réussissaient pas au cinéma, là où allaient les gens qui ne réussissaient pas au cinéma. Et il y a eu sans doute une période, je pense à des émissions comme Dallas, qui étaient carrément méprisées par les auteurs du monde hollywoodien, et en les regardant maintenant avec le recul, qui n'étaient effectivement pas très bonnes, qui étaient davantage de l'ordre de la caricature.
Ah, mais je suis pas d'accord du tout.
Pas d'accord sur Dallas.
Ah, mais je suis pas d'accord du tout. Il faut savoir que Dallas, ça commence comme une mini-série qui transpose Roméo et Juliette dans le monde des brigands pétroliers. Bon. C'est-à-dire, c'est les Montagu et les Capulet, les deux seuls personnages positifs, c'est Roméo et Juliette, c'est-à-dire Bobby et Pamela. Bon. Dallas est une des séries les plus méconnues et les plus mal comprises de l'histoire de la télévision américaine, en particulier sous l'influence des Français qui ont toujours méprisé Dallas, plus maintenant parce que les jeunes gens redécouvrent, c'est qu'ils pensaient que cette représentation de l'Amérique était une représentation triomphante de l'Amérique. Or, pas du tout. Les scénaristes hollywoodiens qui font Dallas font une série satirique, c'est-à-dire que ça se passe pendant juste après le premier choc pétrolier, où les pétroliers texans sont en train de devenir les gens les plus importants des États-Unis parce qu'eux, ils ont du pétrole, et les scénaristes hollywoodiens détestent ces gens-là, et ils se moquent d'eux, et ils montrent à quel point ils sont pourris, à quel point J.R. est un manipulateur, à quel point c'est un salopard qui bat sa femme, etc. Ils font une satire des milieux les plus riches de l'Amérique pour montrer que ces gens-là sont des gens comme les autres.
Je crois qu'on peut être d'accord pour la première année, les deux premières années de Dallas. Je crois que Dallas est une émission qui n'a pas su survivre à son succès.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est lié à l'évolution naturelle. C'est lié à l'évolution naturelle d'une série qui fait que une série est créée par des gens, mais quand le temps passe, les scénaristes, les acteurs changent bien sûr, mais ce qui n'est pas du tout évident pour le public, c'est que les scénaristes changent. Et que donc l'orientation d'une série peut changer tout simplement parce que les scénaristes ont changé. Ouais. Et que donc la narration, l'origine de la narration, peut très bien ne plus être. Enfin, le but de la narration peuvent ne plus être les mêmes au bout de 7 ou 8 ans.
Ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est l'émergence à travers notamment HBO, Showcase et des diffuseurs de cet ordre, de séries qui ont vu le risque de l'éternisation, du fait qu'une série devienne éternelle et qu'elle perde la qualité initiale, de séries qui avaient en quelque sorte un projet, un mandat bien circonscrit, dont on savait au départ qu'elle ne durerait pas éternellement, dont la marque du succès ne serait pas nécessairement qu'elle perdurerait pendant 10, 15, 20 ans, qu'elle aurait 3, 4, 5 cycles d'émissions. Je pense à des émissions comme Les Sopranos, The Wire, Six Feet Under, des émissions comme celle-là, il y avait un projet esthétique que d'habitude une personne avait, et ce projet esthétique était en quelque sorte construit autour de l'hypothèse que ça allait finir bientôt. L'histoire des Sopranos, si on l'avait eu pendant 20 ans, forcément, ou presque forcément, la dallasification de l'émission se serait faite. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait dans les dernières années.
Je ne sais pas si c'est nouveau. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a assez peu de séries qui durent plus de 10-12 ans. Il y en a assez peu. On les a toutes en mémoire, mais il y en a assez peu. La durée de vie moyenne d'une série à succès, c'est 7 ans. Ce qui n'est pas énorme, finalement. C'est-à-dire que la plupart des acteurs sont embauchés pour une période de 7 ans. Et quand, au bout de 7 ans, ils veulent faire autre chose, surtout si la série a eu du succès et que donc ça leur sert de tremplin pour faire autre chose, ils s'en vont. Donc la série a tendance à s'arrêter. HBO, les raisons pour lesquelles HBO produit des séries de courte durée, d'abord avec moins d'épisodes, mais aussi de courte durée, c'est des raisons économiques qui d'une part, obligent les producteurs à utiliser une économie de moyens plus grande, mais il leur donne aussi plus de temps. Par exemple, quand David Chase faisait Les Sopranos, s'il disait à HBO, écoutez, la prochaine saison des Sopranos, il me faut 18 mois pour l'écrire, HBO disait, oui, monsieur Chase. Bon. Ce qui n'est pas possible sur une télévision, un network, dans lequel la programmation des épisodes est liée aux annonceurs. Sur HBO, vous n'êtes pas lié aux annonceurs.
Mais je crois qu'il en a... c'est peut-être pour des raisons économiques, mais pour parler un peu de l'intérêt esthétique que ces narratives, que ces séries représentent. Je crois que des séries comme The Sopranos, The Wire, celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, sont les premières à avoir présenté quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire des émissions où, quand on regarde The Wire du début à la fin, il y a un propos. Il y a un propos, c'est une sorte de série à thèse, en quelque sorte, qui essaye de montrer qu'à partir d'un épisode criminel, d'un fait divers, ça nous permet de découvrir toute la structure de la corruption qui traverse toute une administration urbaine d'une grande ville comme Baltimore. Il y avait quelque chose que le réalisateur voulait faire dans cette série, qu'il a réussi à faire au bout de cinq saisons, mais en même temps, chaque épisode est une sorte de mini-histoire, de telle sorte que quelqu'un qui allume sa télé et qui voit pour la première fois un épisode de The Wire, saison 3, épisode 4, va en perdre des bouts, comme on dit ici, mais va avoir au moins une sorte de ligne narrative qu'il va pouvoir suivre du début à la fin. Alors c'est le fait qu'il y ait des espèces de stratégies narratives à multiples niveaux, dont certaines vont au-delà d'un épisode et même au-delà de
mais ça, ça non plus, c'est pas nouveau. Alors les premières séries qui utilisent cette structure modulaire, c'est-à-dire à la fois une structure dans laquelle tu as une histoire A dans l'épisode et puis une histoire B qui court, qui peut être une histoire de seconde catégorie, et puis une histoire C qui elle court sur toute la série. Ça remonte à Hill Street Blues en 1981, c'est-à-dire c'est une série qui est faite par Steven Bochco et Michael Kozol, et à qui on lance un défi, on lui dit on veut une nouvelle série policière, il dit j'en ai marre, moi j'ai bossé sur Columbo, surtout je ne veux plus faire de série policière. Il dit si on veut une série policière, le producteur lui dit voilà, NBC veut une série policière, c'est ça qu'ils veulent. Alors Bochco et Kozol disent d'accord, mais on fait ce qu'on veut. Ben, faites ce que vous voulez. Et donc ils décident de faire la chronique d'un commissariat. Dans un quartier pourri, dans une ville de l'Est des États-Unis qui n'est pas nommée, qui peut être New York, mais qui peut en être une autre. Et ils inventent pour la première fois cette structure modulaire, qui est une structure de feuilleton, mais de semi-feuilleton. C'est-à-dire avec une histoire complète, ou deux ou trois d'ailleurs, histoires complètes dans le même épisode, et puis des lignes narratives qui courent sur les personnages centraux, qui ont une vie à l'extérieur de leur commissariat, sur une vingtaine d'épisodes. Donc, premièrement, c'est pas nouveau. Et les gens qui font des séries sur HBO aujourd'hui, ils ont bouffé Hill Street Blues quand ils étaient gamins. Ce qui est nouveau, c'est ça. C'est qu'on arrive à la deuxième ou à la troisième génération de scénaristes qui, eux, ont grandi en regardant la télé. Alors que la première, évidemment, n'avait pas fait. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand HBO se met à produire des séries dramatiques, et c'est pas très vieux, c'est la fin des années 90, la première, c'est Oz. Oui. Oz est créé par Tom Fontana. Tom Fontana, quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé dans Saint Elsewhere. Saint Elsewhere, c'est le Hill Street Blues hospitalier, c'est 1982 ou 1983. Et il a fait donc une série qui est aussi une série presque concentrationnaire, puisque ça se passe dans un hôpital. Mais ce que je veux dire, c'est que HBO commence à produire des séries en allant chercher... et en choisissant des projets de gens qui sont déjà des vétérans de la télévision. David Chase n'a pas commencé à HBO. Il avait commencé 20 ans avant sur d'autres séries, et sur Northern Exposure, sur tout ce que tu veux. Et il choisit des projets qui sont des projets, effectivement, que seul HBO peut accueillir, dans des conditions de production que seul HBO peut proposer à ses producteurs. C'est-à-dire qu'il fait un choix qui met au jour... une élite de la fiction télévisée. Mais ça ne peut arriver que parce qu'il y a eu une maturation auparavant du médium et du type de ce type de narration qui remonte déjà à 20 ans ou 18 ans.
À suivre la semaine prochaine.